Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. En 2022, le peuple iranien, ou une partie du peuple, scandait dans la rue « Femme, vie, liberté ». Un slogan qui pourrait devenir à très très court terme « Femme, vie, liberté et eau ». Tant la ressource, en eau, donc dans ce pays du Golfe, se raréfie. Une situation plus que préoccupante sur laquelle les scientifiques tentent d'alerter, comme la population locale qui a manifesté dans tout le pays en novembre 2025, mais difficile à l'heure actuelle de se faire entendre quand le bruit des bombes recouvre tout. Le problème n'est pourtant pas nouveau, il trouve sa source, si je peux dire, au lendemain de la révolution islamique, en 1979, quand le régime des mollahs inscrit dans la constitution l'objectif d'autosuffisance alimentaire du pays. Cet objectif, que le ministère rebaptisé ministère du djihad agricole n'a jamais atteint, se fera au prix d'une gestion prodigue des réserves d'eau souterraines. Alors l'Iran n'est pas seul dans cette situation, on estime que 60% de la population mondiale vit dans des régions qui devraient connaître une pénurie d'eau et une réduction de la disponibilité en eau de surface d'ici 2050. Mais la fureur de la guerre jette un nouveau coup de projecteur sur ces enjeux géostratégiques particulièrement condensés dans le golfe Persique. Alors à Montpellier, un hydrologue vient de nous le rappeler dans une interview donnée au journal Le Point le 15 mars. Il y évoque le problème de l'eau, mais aussi la difficulté à joindre des étudiants actuellement en Iran ou l'exil de son confrère, chercheur comme Rohala Nouri, avec qui il a publié en 2023 dans Nature Communication un article intitulé « Le déclin de la recharge des nappes phréatiques en Iran ». Avec nous dans le studio, Séverin Pistre.
Bonjour.
Bonjour Séverin. Donc vous êtes chercheur à Hydrosciences Montpellier. Nous vous avions déjà reçu, mais cette fois-ci on parlait des pharaons et des infiltrations, voilà, dans les tombeaux du pharaon. Donc bon, cette fois-ci le sujet est un peu plus lourd. Oui. Mais on est ravis de vous recevoir à nouveau.
Moi aussi.
Elle a soif de connaissances, mais elle n'est pas gourde.
Il fallait le jeu facile.
Avec moi dans le studio, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie, bonjour tout le monde.
Enfin, notre invité de dernière minute sera Nathan Roure et il nous parle du concours qu'on aime beaucoup ici, le MT-180. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, Séverin Pistre, pour commencer, on va vous demander des nouvelles de cet étudiant que vous essayez de joindre.
Mais malheureusement, j'espère qu'elles sont bonnes, mais je n'en ai pas. J'ai tenté de le joindre, mais ni par messagerie, ni par mail, il ne répond plus. Donc, bon, je suis un peu inquiet. Il m'avait rassuré, je crois que la dernière fois que c'était en décembre, il m'avait dit que tout allait bien. Mais depuis, j'ai malheureusement plus de nouvelles.
Alors on va parler aujourd'hui donc de ce très beau pays qu'est l'Iran, même si la situation aujourd'hui ne fait pas rêver. On en a une idée très vague, je pense, en Europe. Vous y êtes allé. Est-ce que vous pouvez nous décrire assez rapidement le climat et les paysages qu'on trouve dans ce pays?
Alors on ne se rend pas compte, mais c'est un pays très contrasté par ses altitudes, puisqu'il y a des plaines extrêmement arides, notamment au sud, sud-est de Téhéran. Mais au nord de Téhéran, il y a un sommet, c'est un volcan éteint, même s'il y a encore quelques fumerolles, qui est très, très sympathique à gravir. C'est le Damavand, c'est le plus haut sommet du Moyen-Orient, qui monte jusqu'à un peu plus de 5600 mètres, qui est enneigé une bonne partie de l'année. Et plus au sud-ouest, on y a la chaîne de montagnes du Zagros, avec des paysages là aussi fantastiques. Donc c'est un pays qui est magnifique et qui est très agréable quand on est géologue, parce que comme il n'y a pas beaucoup de végétation, c'est un pays quand même qui est aride à semi-aride, on voit toutes les couches. Donc on a l'impression d'être fort en géologie assez facilement. Voilà, mais c'est... Voilà.
Alors, on va parler de ces ressources en eau. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de réservoirs d'eau naturelle en surface en Iran?
Il n'y en a pas énormément. Il y a quelques lacs naturels. J'allais dire, il y avait quelques lacs naturels, mais certains ont été asséchés, certains ont été surélevés par des barrages qui sont venus renforcer un lac qui était existant. Et puis, il y avait des plaines avec des zones humides qui, pour la plupart, se sont asséchées depuis 20-30 ans déjà, en raison à la fois de l'activité humaine et du changement climatique.
Alors, on va s'intéresser du coup, comme dans votre publication, aux réservoirs souterrains qu'on appelle des aquifères. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est qu'un aquifère, comment il fonctionne et comment il se recharge en eau dans les processus
Alors,
naturels?
Un aquifère, ça vient de l'étymologie aquiféros, aqui l'eau, féros portée. Donc ça veut dire que c'est une roche ou un ensemble de roches, un ensemble de couches qui vont être forcément capables de stocker de l'eau, mais aussi la laisser circuler. Parce que dans aquiféros, il y a la notion de perméabilité, féros porter l'eau. Et donc ces roches vont être constituées évidemment de graines de roches, mais aussi de fissures et de vides dans lesquels l'eau va pouvoir être stockée et circuler. Cette eau, elle vient de tout simple. Alors le plus simple comme recharge, c'est l'eau de pluie qui va traverser les sols, percoler dans les premières couches pour atteindre donc ces fameux aquifères. On imagine que dessous, il va y avoir une couche imperméable qui va bloquer l'eau à un moment. Et donc au-dessus, on aura de l'eau qui va se stocker sous forme d'une nappe d'eau. Mais ça peut être aussi de l'eau qui est perdue au fond des rivières et qui va alimenter, dans ce qu'on appelle les relations rivière-nappe, de l'eau va alimenter donc ces aquifères. Et puis ça peut être de l'eau qui vient de très loin. Parfois, c'est des couches qui vont se faufiler, on va dire, dans le sous-sol pour aller vers des zones montagneuses. Ces mêmes couches, on va les retrouver en plaine. Et finalement, cette eau, elle vient des montagnes, par la fonte des neiges, etc. Par des analyses un peu poussées, parfois, on arrive à montrer que c'est de l'eau qui a plusieurs milliers d'années entre le moment où elle s'est infiltrée par la fonte des neiges ou la pluie ou une rivière et le moment où on la capte sur un forage.
Et ces eaux souterraines, elles représentent quelle proportion de l'alimentation en eau du pays ?
Alors, actuellement, puisque l'Iran a renforcé, finalement, est allé chercher ses eaux pour son alimentation, pour l'agriculture, etc., elle représente à peu près 80% de l'alimentation en eau. Donc, c'est quand même une ressource incontournable et stratégique.
Pour se faire une petite idée, dans un pays plus tempéré comme la France, c'est quel pourcentage l'alimentation?
Alors, pour l'eau potable, en France, on est à peu près 60%. Qui est déjà un pourcentage élevé. Voilà. Il faut savoir que les choix sont un peu différents. En France, ça a été un choix stratégique qui a été fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les eaux souterraines étaient moins polluées que les eaux de surface. Donc on est allé chercher les eaux souterraines prioritairement pour ça. Et pour l'Iran, c'est une autre stratégie, c'est que c'était la seule eau qui devenait disponible.
Alors on l'a dit en introduction, donc c'est pour tenter d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire que le régime des Mollahs, donc via le ministère du djihad agricole, va mettre en place dans les années 2000 une politique agricole très, très prodigue en eau. Alors ils vont notamment remplacer les anciens canats persans donc par des systèmes de forage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que les canats ?
Les canats, c'est des ouvrages hydrauliques. Qui date de bien avant le premier millénaire chez nous, ça consiste à des galeries qui sont creusées sous la surface du sol, qui vont avoir une légère pente montante depuis leur embouchure, si j'ose dire, jusqu'au lieu de prélèvement. Et en fait, c'est une galerie qui est creusée de manière à être juste au sommet des nappes d'eau. Et donc, ces nappes d'eau vont alimenter ces galeries. Il faut savoir que la plus, peut-être pas la plus ancienne, mais en tout cas la plus longue, fait 30 km. Donc on imagine les efforts qui ont été menés à l'époque sans machine. Il faut, évidemment, c'était creusé, je ne sais pas trop comment, ça paraît hallucinant, avec des puits régulièrement qui permettaient l'accès à des puits verticaux qui étaient creusés au plafond, je vais dire, de ces canats, pour aller les creuser et les nettoyer. Il y a des puits qui font plusieurs centaines de mètres pour les atteindre. Et donc, finalement, ces canats, qui sont des ouvrages donc, ancestraux, ne pouvaient pas surexploiter les nappes, parce qu'on prenait finalement que la partie très superficielle. Et donc, si la nappe baissait, automatiquement, il n'y avait plus d'eau dans le canat. Donc, l'année d'après, s'il y avait une année un peu plus humide, le niveau remontait. Et donc, il n'y avait pas d'assèchement sur des durées importantes des nappes d'eau qui étaient associées. Voilà. Mais la plupart de ces canats, maintenant, soit ont été détériorés par le temps ou par d'autres ouvrages humains, soit se sont asséchés.
Et du coup, avec ces nouveaux forages, vous parlez maintenant d'exploitation minière de l'eau, c'est-à-dire qu'on assèche la veine, quoi. C'est...
Tout à fait. Quand on parle d'exploitation minière de l'eau, voilà, ça fait référence aux minerais, en fait, hein, des métaux. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tout ce qu'il y a sans se poser la question du renouvellement. Voilà. C'est des méthodes de gestion, si on peut dire, qui sont maintenant, qui ne sont plus utilisées ni même autorisées dans nos pays. Hein. Il y a des directives cadres européennes, notamment chez nous, qui empêchent ce genre d'exploitation, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout durable. En Iran, ça, malheureusement, ça ne s'est pas mis en place. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle une surexploitation des nappes, c'est-à-dire que la recharge ne compense pas les débits que l'on exploite.
Alors justement, cette recharge, en 2023, avec votre collègue iranien, Roua Lanouri, vous avez voulu l'évaluer dans les bassins hydrauliques iraniens. Il y a 666 aquifères répartis dans une trentaine de bassins là-bas. Alors comment est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas été prélevé vous-même ou évalué le niveau de chaque aquifère? Quelles données vous avez utilisées et quelles méthodes vous avez utilisées pour évaluer cette recharge?
Alors, à ce niveau, il faut bien dire que le ministère iranien de l'agriculture, dont vous avez parlé, a mis en place une direction de l'eau qui a mis en place un réseau de mesures. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné nombreux forages à travers le pays, et les 666 aquifères que vous avez cités, pour surveiller mensuellement ou journalièrement, selon les cas, le niveau des nappes. Et regardez, l'idée, c'était de regarder à comment évoluer ces niveaux à long terme. Sauf que c'est, en gros, il y avait des grosses bases de données, mais peu exploitées. Donc là, l'idée de cette publication, justement, ça a été d'utiliser ces bases de données qui n'étaient pas à la base, c'était une bonne idée, hein, de suivre, évidemment, de surveiller ces nappes, de manière à les exploiter statistiquement et regarder ce que devenaient ces niveaux.
Et ces données, elles sont. Il y a une petite phrase dans votre article qui dit qu'elles ne sont pas nécessairement fiables. Et vous vous en êtes servi quand même, ou vous avez pu. Comment on sait qu'elles ne sont pas fiables, Dieu ?
Alors, déjà, il y a deux manières, hein, de mesurer ces niveaux. C'est soit quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des campagnes manuelles, c'est-à-dire que tous les jours ou toutes les semaines, selon ce qui est, on descend une sonde à l'intérieur des forages sélectionnés comme étant représentatifs de la nappe d'eau en question, qu'on utilise, et on va mesurer à quelle profondeur le niveau d'eau se situe par rapport à la surface. Et on va pouvoir rentrer ça dans une base de données. En général, on mesure ça par rapport au nivellement du forage, c'est-à-dire on a l'altitude du niveau d'eau, c'est-à-dire on enlève l'altitude du sol, on enlève la profondeur, on a l'altitude de la nappe. La deuxième manière, c'est de mettre une sonde automatique à l'intérieur qui va être alimentée par une prise ou une batterie, un fil ou une batterie ou une pile, et elle va mesurer la pression d'eau. Et donc cette pression d'eau est transformée en niveau. Voilà. On imagine bien que si la colonne d'eau au-dessus de la sonde, qui elle est fixe, augmente, ben on aura une pression plus forte, donc on peut traduire. Donc évidemment, les données, il peut y avoir des dérives instrumentales, c'est-à-dire que cette sonde, elle peut d'année en année dériver, et s'il n'y a pas quelqu'un au moment pour la recalibrer, pour la recaler, ben ça c'est assez typique des matériels électroniques, hein, c'est pas uniquement ces sondes-là, donc ça demande des efforts supplémentaires. Il peut y avoir à un moment la pile qui tombe en panne. Et donc, s'il n'y a personne pour s'en apercevoir pendant un an, ça veut dire qu'on va avoir une lacune de données pendant un an. Donc, ça devient un peu difficile à exploiter ensuite quand on veut faire des statistiques dessus. Donc après, ben, il y a plusieurs manières de faire. Soit, mais ça, c'est assez typique de traitement du signal. Hein, tous ceux qui traitent des données ou des signaux savent ça. Quand vraiment il n'y a pas de données, ben, on élimine. Hein, on ne peut pas faire des statistiques du tout. Parfois, il y a des techniques de lissage. C'est-à-dire que si, par exemple, il manque un mois de données pendant une période sèche, ben, on prend le point de départ et le point d'arrivée, et on lisse tout ça pour avoir le point intermédiaire. On peut un peu corriger. Tout dépend de la lacune. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, les données peuvent ne pas être totalement fiables.
Alors, les résultats de votre étude sont pas bons, clairement. Ils sont même particulièrement alarmants. Vous évaluez la diminution de la ressource dans les nappes phréatiques à 35% entre 2002 et 2017, au rythme moyen de moins 3,8 mm par an. Ça semble vertigineux, et ça l'est.
Oui, ça l'est d'autant plus que la recharge totale, quand on a, sur les premières années où on a enfin, dans les années 2000, elle était de 40 mm. Donc si on enlève effectivement 3,8 mm par an, c'est gigantesque. Voilà. Quand on a des, comme on va dire, une moyenne un peu française pour faire la comparaison, quand on a des aquifères qui se rechargent de 200, 300 ou 400 mm par an, si on enlève 3 mm par an, on peut se dire que bon, on peut corriger le tir en prenant les mesures adéquates. Mais quand on perd autant tous les ans, c'est totalement gigantesque. Oui. Je reviens juste sur le millimètre par an, c'est une lame d'eau, donc c'est comme quand on met une bassine pour mesurer une pluie, donc on mesure de combien de pluie on a eu, c'est la lame d'eau qui a précipité. Là-dessus, il faut enlever ce qu'on appelle l'évapotranspiration après la pluie, ce qui va repartir sous forme de vapeur d'eau et d'utilisation par les plantes à travers leurs racines, et puis il va rester quelque chose, il y a le ruissellement, éventuellement il y a de l'eau qui peut ruisseler pour alimenter des rivières, etc. Et puis il y a ce qui va arriver à la nappe d'eau, qu'on calibre à millimètres par an, comme ça.
Alors, un des effets de ce siphonnage des nappes, c'est l'affaissement des sols. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce phénomène ? Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des terres ?
Mais en fait, il faut imaginer que dans ces fameux aquifères, donc juste pour rappel, l'aquifère, c'est à la fois l'ensemble rocheux et la nappe d'eau qui est à l'intérieur. Mais la nappe d'eau, comme elle remplit, l'eau remplit des vides, des fissures ou des pores de la roche, cette eau, elle maintient par sa pression, elle maintient la roche finalement. C'est d'autant plus vrai dans ce qu'on appelle les nappes captives. Les nappes captives sont des nappes dans lesquelles la partie superficielle n'est pas soumise à la pression atmosphérique, elle a une pression plus forte que la pression atmosphérique. Donc il y a une pression qui est forte, qui va maintenir les terrains. À partir du moment où on va exploiter la nappe, notamment on va abaisser fortement le niveau de cette nappe, on va diminuer la pression qu'exerçait l'eau sur la roche, et donc la roche va s'affaisser, et ça va se traduire en surface par un affaissement des sols, ce qu'on appelle en termes techniques une subsidence, c'est-à-dire on a des terrains qui descendent, voilà, et dans certains cas, assez souvent en fait, ça s'accompagne de petits séismes d'ailleurs. Voilà, parce que les roches se réajustent, en fait.
Alors, avec tout ça, en Iran comme partout, on fait face au changement climatique qui, lui aussi, impacte la ressource en eau. Comment ça se traduit là-bas, ce changement climatique ?
Alors, le changement climatique, il est à plusieurs niveaux. Les deux paramètres clés, c'est évidemment la température. La température, quand on regarde les graphes de température depuis le début du siècle, le siècle dernier, 1900, on s'aperçoit que la température moyenne en Iran, elle a augmenté de 1 degré entre 1900 et 1990. Et depuis 1990 jusqu'au début des années 2020, elle a augmenté de plus de 2 degrés. Donc, l'augmentation de température, elle est carrément vertigineuse. Et ça, on le sait, parce que c'est ce qu'on appelle l'Iran un hotspot dans les scénarios climatiques. C'est un endroit dont on sait que la température va augmenter encore plus vite que dans le reste du monde, en moyenne. Donc ça, c'est le premier effet. Et donc, ça va se traduire par quoi ? Directement par plus d'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau qui va repartir sous forme de vapeur, puisque la quantité de vapeur d'eau que peut contenir l'air, elle est exponentiellement liée à la température. Quand on augmente la température d'un degré, on augmente de beaucoup l'évapotranspiration. Le deuxième paramètre auquel on pense, c'est la précipitation. Et là aussi, si on regarde l'évolution depuis le début du siècle dernier des précipitations, il y a un abaissement, une tendance à la baisse de la précipitation. Donc finalement, il pleut moins et on évapotranspire plus. Donc forcément, il reste moins d'eau pour alimenter les hydrosystèmes et notamment les nappes d'eau. À ça s'ajoutent aussi des événements comme on connaît depuis le dérèglement climatique chez nous. C'est l'occurrence plus forte de périodes de canicule et de sécheresse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a eu des journées où, par exemple, les gens devaient se confiner chez eux.
Oui, il faisait plus de 50. Ouais. Alors, on a parlé de l'agriculture tout à l'heure. Dans les autres facteurs anthropiques, il y a la consommation d'eau ordinaire. Et là, on tombe des nues aussi un petit peu. La consommation d'eau par les citoyens iraniens, elle est faramineuse aussi.
Tout à fait. Elle est plus forte que le français moyen ou que le montpelliérain moyen. Un habitant de Téhéran consomme quasiment 3 fois plus qu'un montpelliérain. C'est gigantesque. Et ça, c'est lié à la fois, je dirais, des habitudes ou une culture qui n'est pas encore ancrée, et puis aussi à une mauvaise gestion, notamment des réseaux d'alimentation en eau. C'est pris en compte dans la consommation générale, en eau potable. On estime que c'est au moins 40% d'eau perdus sur les réseaux d'adduction. Voilà. Là aussi, en France, on a depuis le Grenelle de l'environnement, il y a des normes, des réglementations qui font que les gestionnaires sont pénalisés s'ils ne rénovent pas leur réseau. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place et on a vu les réseaux largement s'améliorer. Et dans un État qui n'a pas les ressources ni administratives, ni financières ou politiques comme l'Iran, ça ne s'est pas mis en place et donc les réseaux se dégradent et c'est énormément de pertes d'eau.
Alors cette crise de l'eau, finalement, elle concerne d'autres pays du Golfe, et il y en a comme les Émirats Arabes Unis, le Koweït ou le Qatar, qui ont opté, eux, pour des usines de dessalement de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi en Iran ?
Très peu. Pour l'instant, assez peu. Alors peut-être parce que les pays du Golfe étaient encore plus arides et avaient de plus forts besoins d'eau pour, disons, transformer leur dollar en tourisme et faire venir, enfin, on connaît, hein, Dubaï, etc. Ce n'est pas l'image que l'on a de l'Iran. L'Iran a mis en place quelques usines. C'est des installations assez secrètes. Hein. On s'en aperçoit avec la guerre, hein, puisqu'on voit bien que là, c'est le talon d'Achille, finalement, des pays du Golfe. Hein. Ils ont une peur bleue.
Ils ont été bombardés du coup ce week-end.
Parce que l'Iran a bien compris que là, il y avait un enjeu fort. Mais pour l'Iran, c'est nettement moins. C'est unique quelques pourcents qui est fourni par les usines de dessalement. Alors que dans le cas des pays du Golfe, c'est 80 à 90% de l'eau qui viennent de ces usines de dessalement. Donc extrêmement plus fragile que l'Iran là-dessus.
Alors, dans les solutions proposées par le régime des Mollahs, on a des propositions donc complètement, qui nous semblent en tout cas complètement farfelues. On a eu la proposition du président de déplacer la ville de Téhéran. On a l'ensemencement des nuages. Alors bon, tout ça, c'est pas très sérieux, on est d'accord ?
Non.
Non, ça marche pas trop. La recharge artificielle des nappes phréatiques, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
La recharge artificielle. Alors, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent dessus. Hein. C'est vraiment un procédé auquel, je pense, on peut accorder une certaine crédibilité. Si tant est qu'on le mette en place de manière raisonnée, raisonnable, réfléchie, et il y a une large part qui est encore du domaine de la science, hein, parce que c'est vraiment pas évident de trouver la bonne localisation, de pas colmater les filtres pour injecter cette eau. Ça se fait, hein, notamment vous parliez des pays du Golfe, ils ont développé des aquifères totalement artificiels où ils injectent de l'eau, des gros volumes d'eau issus de dessalement, notamment pour avoir des réserves stratégiques au cas où un missile ou plusieurs missiles, évidemment, mettraient à mal leurs installations. Mais oui, il y a forcément des choses à faire. Ça se travaille. On peut imaginer de l'eau de barrage qu'on réinjecte ou de l'eau lors de fortes crues de certains fleuves. On détourne une partie de la crue pour l'injecter. Mais voilà, il faut trouver des systèmes d'injection. On peut imaginer même de l'eau domestique, de l'eau usée, une fois traitée, que l'on réinjecte. Mais il y a tout le problème, évidemment, des charges bactériennes à résoudre, etc., de traitement. Il y a pas très loin d'ici des collègues qui travaillent sur un site expérimental non loin de Perpignan, qui est très prometteur. Mais pour l'instant, c'est des tout petits volumes que l'on injecte. Hein. Mais oui, il y a des possibilités.
Et alors ce déséquilibre que vous avez mis en évidence dans votre publication entre la recharge et le prélèvement des eaux souterraines, donc là vous l'avez documenté, mais en fait c'est quelque chose qu'on sait depuis les années 70, ça fait plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a depuis par le gouvernement des mesures qui ont été prises pour éviter que la situation ne s'aggrave ?
Oui, le gouvernement iranien avait interdit, par exemple, des zones de foration, c'est-à-dire sur certains aquifères, ils avaient dit la situation est telle qu'on ne va plus faire de forage. Ou alors on va, sur d'autres, limiter les forages, ou on va limiter les débits. Mais en fait, tout cela n'a pas tenu bien longtemps pour des raisons, d'après ce que je sais, de corruption, d'urgence, d'un État qui administrativement n'avait pas les moyens de contrôler tout ça. Et donc, ça n'a pas servi à grand-chose.
Alors, vous avez parlé de votre collègue dans cette publication du Point, donc Rola Nouri, qu'on a cité plusieurs fois. Donc lui, il est parti s'exiler en Chine, et vous dites parce que ses recherches étaient devenues trop sensibles. C'est un point de propagande de l'État. Enfin, il faut pas parler de ça en Iran.
L'Iran, en tout cas, comme vous l'avez indiqué, il y a eu des manifestations, mais il y a eu aussi des manifestations sur l'eau, notamment des habitants des grandes villes se retrouvaient avec des coupures d'eau. à des moments, et donc et certaines dans d'autres petites villes n'ont plus d'eau du tout. Donc les habitants eux-mêmes ont vu cette dérive et cet affaissement des ressources en eau. Donc il y a eu des manifestations qui ont été bien évidemment moins réprimées, tant mieux, hein, que les manifestations qui ont eu lieu plus tard, malheureusement. Mais forcément, pour le gouvernement, il voit là un angle d'attaque de déstabilisation à travers l'eau, parce que c'est là on touche au quotidien. Et donc forcément, en mettant le doigt sur une politique de gestion qui n'est pas à la hauteur, ou en tout cas qui n'a pas...
On parle de faillite hydrique.
Qui n'a pas anticipé tout ça, forcément le gouvernement iranien craint qu'il y ait des manifestations et qu'il soit, encore une fois, déstabilisé à travers ce problème d'accès à l'eau. Donc, et c'est regrettable parce que j'ai pu le noter à la fois en recevant ce professeur iranien et puis ses étudiants qui sont très, très bien formés. C'est de très bons scientifiques, hein, vraiment brillants. Donc il y a une perte finalement, ou en tout cas c'est dommage que leur avis ne soit pas suivi parce qu'ils ont les moyens intellectuels et les compétences scientifiques pour mettre en œuvre des solutions, très certainement. Mais ça veut dire un changement de paradigme allant jusqu'à la corruption, etc. Il faut éliminer tout ça, et ça, j'imagine que c'est bien ancré. Donc forcément, quand on touche à l'eau, on met en évidence que la politique n'a pas été bonne, hein, alors qu'il y avait tous les moyens pour la mettre, puisque je vous dis, il y a eu des suivis qui ont été quand même bien réalisés, ils ont les scientifiques derrière, mais c'est, je veux dire, d'un point de vue politique que ça n'a pas suivi, clairement.
Un grand merci à vous, Séverin Pistre, pour cet éclairage sur l'Iran. Passionnant.
Merci pour votre confiance.
Pas très optimiste, mais passionnant.
Pas trop. Merci.
Et j'accueille maintenant Nathan Roure de la direction de la communication qui nous parle aujourd'hui d'un rendez-vous qu'on adore à Allume la Science. C'est le concours MT180. Bonjour Nathan.
Bonjour Lucie.
Comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ?
Très bien. Alors, petit rappel pour ceux et celles qui seraient passés à côté, le MT180, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ma thèse en 180 secondes, souvent appelée MT180 comme tu viens de le dire, c'est un concours de vulgarisation scientifique où le principe il est assez simple mais très exigeant puisque des doctorantes et des doctorants doivent présenter leur sujet de thèse en moins de 3 minutes ou 3 minutes exactement, pas une de plus et avec une seule diapositive. L'objectif, c'est de rendre compréhensible un travail de recherche parfois très pointu à un public non spécialiste. C'est donc un exercice à la fois scientifique et pédagogique mais aussi un vrai défi d'expression orale.
Alors, le rendez-vous dont on parle aujourd'hui, là, ça va être la finale locale. Qui peut y participer ?
Alors, cette finale régionale, elle réunit 20 doctorantes et doctorants issus des universités et des établissements de recherche d'Occitanie. Ce sont des jeunes chercheurs en cours de thèse, sélectionnés après des phases de présélection, puis accompagnés à la prise de parole et à la vulgarisation scientifique. Ils viennent présenter des sujets très variés, allant de la santé, l'environnement, les sciences humaines, le droit ou encore la physique. Et toutes ces matières et ces domaines, c'est ce qui fait toute la richesse de la finale.
Et ça se passe où ?
Alors la finale régionale Occitanie de MT180, elle se tiendra le 2 avril 2026 de 18h à 20h sur le site Vauban de Nîmes Université. C'est un moment pensé comme un véritable événement, à mi-chemin entre une conférence scientifique et un spectacle, avec un jury, mais aussi un public qui sera présent dans la salle.
Et alors si on veut y assister, comment on fait ?
C'est très simple, pour y assister, l'événement il est ouvert au grand public sur inscription gratuite. Toutes les informations et les inscriptions sont disponibles sur le site de l'Université de Montpellier ainsi que sur le site du Collège Doctoral.
Merci beaucoup Nathan, un petit mot pour finir ?
Oui, j'aimerais juste rajouter que ce qui est intéressant avec ma thèse en 180 secondes, c'est que ça permet de voir la recherche autrement, de manière vivante, accessible, avec même une touche d'humour. On découvre des sujets auxquels on ne penserait pas forcément et surtout on comprend en quoi la recherche elle peut avoir un impact très concret dans nos vies.
Merci beaucoup. Et on se revoit peut-être alors à la finale de MT180.
On s'y voit, sans problème.
Le 2 avril 2026, de 18h à 20h, c'est ça ?
C'est
ça, parfait. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.